L'œuf et la poule, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans l'œuf et la poule pour une nouvelle conversation philosophique avec Odile Autré, qui m'accompagne toujours dans ces conversations. Ce mois-ci, nous avons décidé, arbitrairement, c'est le cas de le dire, de parler de la liberté, tout simplement, et nous allons tenter d'avoir quelque chose des conversations d'ateliers philosophiques, comme ça, qui se tiennent à Aubenas.
Bonjour Olivier. Alors donc on a choisi un sujet simple et facile à cerner, comme d'habitude. Donc est-ce qu'on pourrait déjà commencer, déjà par le définir un petit peu, puis aussi voir comment on pourrait déterminer un peu la différence ou les accointances entre le libre arbitre et la liberté. Comment on articule un peu tout ça?
Ouais. La liberté, c'est peut-être un attribut qui paraît exclusivement humain. Et la liberté, ce serait une faculté. Ce serait la faculté de se poser soi-même comme origine de quelque chose. C'est-à-dire que je serais le premier mouvement de quelque chose. Premier mouvement qui ne serait pas causé par un mouvement antérieur, tout simplement, mais j'en serais l'origine spontanée. Voilà, ça serait ça ma liberté. Étant entendu qu'à partir du moment où j'ai cette liberté, j'ai aussi, c'est un peu la contrepartie, la responsabilité de ce que j'en fais. Voilà la liberté, une sorte d'attribut humain. Alors le libre arbitre, avec la notion d'arbitrage, on a la notion de choix. C'est-à-dire l'idée qui est véhiculée par la notion de libre arbitre, c'est l'idée que je peux choisir entre deux possibilités ou plus. Je peux choisir, alors de la même manière, hein, indépendamment de causes antérieures qui me détermineraient fortement. Donc liberté de produire un mouvement, une parole, une pensée. Libre arbitre, faire usage de cette liberté pour choisir. Voilà, je crois que c'est un peu la distinction qu'on pouvait faire, qu'à peine une distinction finalement.
Et donc on part bien d'un sujet, il faut bien un sujet pour exercer ça. Alors ce sujet, est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il arrive tout vierge de tout? Et il peut faire ses choix en toute autonomie peut-être, mais sans antécédent? Ou est-ce qu'il part d'un passif, éventuellement d'un actif aussi?
Oui. Et c'est, alors d'abord, vous avez raison d'associer à la notion de liberté la notion de sujet. Parce que c'est au sujet, en l'homme, que nous attribuons justement la liberté. C'est pas tellement la personne humaine, avec justement toutes ses déterminations, toute son histoire, sa biographie, etc. C'est peut-être encore moins l'homo sapiens sapiens, qui est finalement un mammifère un peu sophistiqué. C'est pas tellement celui-là, ces deux-là, qui nous intéresse, mais bien effectivement le sujet, c'est-à-dire l'être qui est capable de dire « je », tout en sachant ce qu'il dit. Évidemment, c'est pas un perroquet qui dit « je », c'est un être qui dit « je », qui se saisit lui-même comme une unité, et justement comme une unité ayant apparemment justement une certaine indépendance. Alors, évidemment, quand on considère ce sujet libre, par rapport à ce que vous dites, Ce qui frappe, c'est son côté très abstrait. Ça nous paraît très abstrait, ce sujet qui dit « je », qui est conscient de dire « je » et qui peut, pour en revenir à votre notion de libre arbitre, choisir entre des possibilités qui s'offrent à lui dans tous les domaines, la nourriture, la politique, etc., l'art. Effectivement, bien sûr, que ce sujet libre, là, c'est beaucoup une abstraction. Et que quand on observe les situations humaines, ce qu'on observe, c'est d'abord des déterminations. C'est-à-dire, c'est d'abord comme vous le disiez, du pré-acquis, voire de l'inné, ou en tout cas de l'éducatif, de l'éduqué. Le sujet dont nous parlons, il est incarné. Il est incarné justement dans l'animal humain, qui a ses déterminations. Il faut manger, il faut respirer, il faut maintenir sa température corporelle. Il faut, bon. Et donc, évidemment, qu'à partir du moment où, à ce sujet, on donne un aspect beaucoup plus concret, réaliste, la notion de liberté, elle semble un petit peu nous échapper, surtout que il n'y a pas que les déterminations anatomo-physiologiques du mammifère humain, il y a évidemment toutes les déterminations sociales, psychologiques, et alors là, effectivement, on a tous les pré-acquis. Donc vous parliez aussi d'un futur, c'est-à-dire le sujet humain, il y a presque pléonasme hein, d'ailleurs, hein. Le sujet humain, il se perçoit lui-même comme ayant un avenir, c'est-à-dire il sait très bien que ses actes et déjà ses paroles vont avoir des conséquences, et il est bien évident que la perception des conséquences que vont avoir ses actes et ses paroles, on peut supposer que ça influence de manière anticipée ces décisions, et que par conséquent, ces décisions, elles ont peu de chances d'être entièrement libres, comme on le supposait au départ.
Donc, en fait, la liberté, dès le début, on voit qu'il y a tout de même des contraintes. Entre le concept, l'idée et l'idéal, ce dont on rêve tous, on s'aperçoit qu'il faut revenir un peu les pieds sur terre, et on est à la fois, on est pris un peu entre son passé, son futur, le futur rêvé, le futur qu'on peut observer réalistement, et c'est une gestion entre tout ça, d'une certaine manière.
Oui, c'est une gestion. Je dirais que, effectivement, le sujet est pris dans tout un réseau de relations de cause à effet. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations que nous examinons, les événements qui arrivent, tout ce qui arrive, nous paraît l'effet de causes antérieures. Et par conséquent, on ne voit pas bien, et d'ailleurs on ne peut pas voir, à proprement parler, un sujet humain qui serait, lui, en dehors de ses réseaux, en dehors de ses relations de cause à effet. Par conséquent, effectivement, la liberté dont nous parlons, cette possibilité d'être à l'origine de quelque chose, cette liberté de choisir, elle paraît effectivement plutôt quelque chose de l'ordre de l'idée, de l'idéal, plutôt qu'une réalité. Mais en même temps, bien entendu, ce n'est pas parce qu'elle est de l'ordre de l'idée ou de l'idéal, cette liberté, qu'elle n'a pas d'existence du tout, puisque justement nous l'évoquons.
Voilà. Et ça, en fait, elle est quand même aussi affaire de compromis entre ce qu'on sait, ce qu'on a pu apprendre, et puis ce qui est probable ou ce qui est souhaitable. On est obligé d'essayer de chercher un petit peu une issue ou un tracé là-dedans.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est révélateur, c'est, je crois, le fait même que nous soyons en train d'en parler. Si nous n'avions absolument aucun horizon de choix, aucune capacité de prise de recul, de distance par rapport aux causes qui nous déterminent, nous ne pourrions même pas en parler. Donc effectivement, le fait que nous évoquions la question de la liberté, ça manifeste qu'avec l'homme, s'introduirait dans l'univers, dans le monde, comme une espèce de jeu. Comme quand on dit que des pièces qui normalement sont assujetties l'une à l'autre le sont un peu moins bien et qu'il y a du jeu, hein. Mmh. Peut-être que l'homme, c'est l'être par lequel du jeu s'introduit dans l'univers. Thank you. c'est l'étude, opus 76. Liberté, libre arbitre, liberté chérie, voilà le sujet de l'œuf et la poule ce mois-ci. Et je suis donc toujours avec Odile Autré pour nous entretenir de tout ça.
Alors, donc la liberté, ça supposerait quand même une forme... Enfin, l'exercice de sa liberté, ça suppose une forme de responsabilité.
Et oui, je crois que c'est même... C'est-à-dire que la responsabilité est une conséquence de la liberté. Si j'ai effectivement le choix de faire ou de ne pas faire ce que je fais, on peut ensuite, puisque je l'ai fait, par exemple, me le reprocher. Ce qui est évidemment impossible si j'ai agi absolument déterminé. On ne peut pas reprocher à une boule de billard de ne pas rentrer là où on voulait l'envoyer. Elle n'y est pour rien. Tout est dans le geste initial du joueur, évidemment. Le sujet que nous évoquons depuis le début de notre discussion, le sujet, lui, s'il accepte, finalement, c'est comme accepter le pouvoir, hein, d'une certaine manière, dans une société. Si j'accepte ce pouvoir quasiment royal que me donne la liberté, j'en accepte ipso facto, du même fait, j'en accepte la conséquence qui est que je deviens responsable de mes paroles, de mes actes. Peut-être même, dans une certaine mesure, je deviens même responsable de mes pensées. Et je crois que chez les ennemis de la liberté, ceux qui sont enclins à nous la refuser, à se la refuser à eux-mêmes, il y a peut-être parfois un certain refus d'accepter son humanité avec les responsabilités qu'évidemment ça engage.
Oui, parce que ça peut du coup être considéré comme une limite, la responsabilité qu'on obtient immanquablement. Dans l'exercice de sa liberté, du coup, ça peut devenir une limite à la liberté. Je préfère pas trop m'avancer, de sorte de pas être la cause, ou de sorte de pas subir les conséquences de mes décisions.
Complètement. Et puis, en même temps que ça m'élève, cette liberté dont je disposerai, ça me rend visible. C'est-à-dire, ça me met en évidence. Comme, encore une fois, en quelque sorte, origine de mon acte, et seul légitime, mais en même temps seul susceptible d'être accusé, d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est cette solitude de l'être libre dans l'univers, sa solitude qui peut être angoissante. Et effectivement, qui nous présente saisis dans notre solitude, dans notre existence et dans notre responsabilité, nous sommes saisis en même temps dans notre rapport à l'autre, effectivement. Parce que être responsable, ça veut dire être capable de répondre. Hein, c'est étymologiquement, c'est ça. On peut nous demander de répondre de ce que nous avons fait. C'est-à-dire de fournir des explications, de fournir des raisons, une légitimité. Et tout ça, effectivement, c'est un poids, c'est une limite. En tous les cas, ça rend visible une limite et puis ça donne des limites morales. Alors qu'autrement, finalement, on se contente de louvoyer, un peu comme une boule de billard, comme un voilier sans pilote, hein, au gré des flots, au gré des vents, hein, sans jamais se poser la question de soi et de la valeur, la légitimité de ce qu'on fait, tant en termes d'ailleurs moraux que politiques ou esthétiques.
Est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on n'approche pas un petit peu à ce moment-là la pensée du déterminisme? En fait, on serait initialement un être avec ses propres déterminations, ses propres capacités ou incapacités, et tout génétique ou autre, acquise certainement. Et donc, ça nous dédouanerait d'une certaine manière du résultat de nos œuvres ou de notre laisser-faire.
Le déterminisme comme doctrine, comme théorie, est effectivement... elle a une légitimité parce que c'est finalement l'enseignement des sciences. découvrir des relations de cause à effet dans les événements, c'est ni moral ni immoral, c'est amoral. C'est-à-dire on constate, voilà. Mais à partir du moment où on voit dans ces déterminations, à partir du moment où on saisit ces déterminations, effectivement, on s'en éloigne d'une certaine manière, on prend un recul par rapport à elles, on restaure notre pouvoir. Et à partir de ce moment-là, le déterminisme comme doctrine peut nous apparaître comme effectivement un moyen de se décharger. C'est-à-dire, je me décharge. On peut se décharger de toutes sortes de responsabilités. Je veux dire, je suis un consommateur excessif. Je suis en particulier un consommateur excessif, par exemple, de produits psychotropes, ou je suis un utilisateur abusif de plastique. Eh ben, je vais me décharger sur le narcotrafic, ou je vais me décharger sur les pétroliers qui fabriquent ces plastiques, au lieu de dire que à tout moment, je peux faire le choix de renoncer à ma consommation pour ne pas avoir ensuite à en répondre.
Oui, de la même façon, on peut se dire que c'est de se protéger par son histoire personnelle ou l'histoire de son peuple, de sa nation, pour justifier soit un laisser-faire, soit de la brutalité, pas forcément en l'associant à du génétique, mais en l'associant à l'histoire générale ou sa propre histoire, qui pourrait servir de parapluie, on va dire.
De nombreuses doctrines déterministes sont aussi historicistes, c'est-à-dire elles consistent à concevoir l'histoire, c'est-à-dire l'ensemble des événements humains du passé, consistent à les voir comme un enchaînement de causes à effet, à l'intérieur duquel les individus et même, dans une certaine mesure, les peuples n'ont pas d'autonomie. Ils suivent un mouvement, soit qu'ils les dépassent spirituellement, une volonté divine par exemple, soit au contraire ils obéissent à un déterminisme sous-jacent. Hein, c'est un petit peu le matérialisme basique qui ferait de l'histoire des peuples finalement l'effet de rapports de force matériels qui sont bien antérieurs à l'existence même de ces peuples et de leur histoire. Une sarabande, la malassise de Charles Mouton. L'entretien philosophique avec Odile Vautré se poursuit sur la question de la liberté. avec bien sûr cette rencontre que nous avons fait de la responsabilité et des théories déterministes.
Oui, et qui nous amène quand même à une question. Du coup, si on se sent ou si on se sent vraiment entièrement déterminé par le passé, par le sien, par l'histoire, on peut quand même arriver à une forme d'aliénation, où on se sent, où on est carrément aliéné à son passé, et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de solution pour évoluer, si on ne se sort pas de là.
Mais effectivement, j'ai un peu une image dont on a déjà parlé ensemble en préparant l'émission, que quelqu'un qui prendrait conscience des déterminismes qui pèsent sur lui, ou quelqu'un qui prend conscience des déterminismes qui pèsent sur lui, par la prise de conscience même de ces déterminismes, il peut s'élever au-dessus d'eux, essayer de reprendre le pouvoir sur l'existence à travers l'exercice de cette liberté dans ses choix, etc. Effectivement, ce qui se présente toujours à ce moment-là, c'est ce sont les représentations que nous nous faisons du réel. Souvent, ce sont des idéologies. Il y a une idéologie déterministe, par exemple, mais il y a toutes sortes d'idéologies politiques, morales, religieuses, éventuellement, qui peuvent venir se saisir de notre représentation et nous, d'une certaine manière, nous déterminer dans nos choix. Alors cette fois-ci, pas par en dessous ou par une pas par la par la, l'effet simplement d'une cause antérieure qui me déterminerait, mais c'est simplement c'est beaucoup dire, ce serait opérer une véritable aliénation, c'est-à-dire je deviens étranger à moi-même dans les représentations que je me fais des choses, je deviens étranger à moi-même, et finalement, ce n'est plus moi, ce n'est plus le sujet dont nous parlions tout à l'heure qui choisit, mais ces représentations, les représentations qui le hantent comme un corps étranger, qui le font, en quelque sorte, choisir à sa place. Mais il en perd, il n'en a pas la connaissance du fait même de cette aliénation, c'est-à-dire qu'il est vraiment devenu étranger à lui-même, et le problème étant qu'il n'agit pas en totale inconscience comme un objet, mais il agit, ce sujet ainsi aliéné, il agit avec une conscience fausse de la réalité des choses.
Donc il a d'une certaine manière perdu sa liberté.
Voilà.
Il est plus dans le statut d'être libre.
Voilà.
Est-ce que, du coup, comment ça peut s'articuler avec ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est peut-être une sous-classe ou un petit peu en parallèle de la liberté ?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, on sent bien que dans cette situation d'aliénation, le sujet se retrouve dans la situation de pouvoir refaire ou pas l'expérience de la liberté et la situation de choix. Je suis dans une situation de choix. Je peux effectivement agir aliéné de manière assez automatique en fonction des représentations que je me suis déjà faites des choses. Et je peux aussi profiter de ce moment de choix à faire pour faire l'expérience peut-être de mon libre-arbitre. C'est-à-dire, est-ce que je peux, à un moment donné, reconquérir mon statut de sujet indépendant, hein, et me remettre dans la position d'être à l'origine de quelque chose.
Alors,
de neuf.
Ça peut être difficile à faire quand on est seul. Est-ce que c'est pas la confrontation avec d'autres sujets, justement, qui peut permettre de réaliser l'impasse dans laquelle on se dirige.
Je pense que le dialogue, un dialogue un peu comme celui que nous avons ici, et qui va devoir s'achever parce que l'émission se termine, mais c'est vrai que le dialogue honnête, évidemment sincère, est une possibilité par la confrontation avec des représentations différentes. C'est peut-être l'occasion de ressaisir effectivement notre position de sujet libre, de manière comparative. Voilà. Nous sommes pressés par le temps, nous sommes déterminés par l'avancée des aiguilles de la pendule. Nous avons eu le plaisir d'écouter Sibelius, l'étude opus 76, interprétée par Yan Wang au violoncelle et Göran Solcher à la guitare. La sarabande, la malassise de Charles Mouton était interprétée par Claudina Zonirek. Nous remercions Landy Unger d'avoir choisi cette musique pour nous et nous remercions bien entendu en même temps Cody Lautré qui discute ici philosophie. Nous remercions Vincent Guigon qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Thank you.